Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to
celebrate you, baby. Un nouveau numéro d'Alternative aujourd'hui avec Laure Rose qui reçoit Martine Julien de l'association Évolescence.
Et oui, et puis pour une fois, on va s'intéresser aux plus jeunes, parce qu'on parle toujours des problèmes des adultes.
Des vieux rabougris.
Par exemple, ou des moyens rabougris. Là, on va s'intéresser aux plus jeunes. Est-ce que... Bonjour Martine.
Bonjour.
Comment ça va? Première question.
Comment ça va?
Voilà, d'habitude, c'est moi qui pose des questions idiotes.
En ce samedi matin, comment allez-vous?
Très bien.
Est-ce que vous pouvez nous décrire les actions de cette association?
Alors, l'association a pour objectif de regrouper des professionnels de l'enfance et de l'adolescence, des thérapeutes aussi, pour que les enfants apprennent à gérer leur stress, à avoir des outils pédagogiques d'apprentissage et de l'orientation. Donc voilà, c'est une association qui va apporter en fait des outils pédagogiques, des soutiens scolaires, mais toujours par le ludique, avec une base sur le linguistique aussi, l'anglais par exemple, l'allemand, avec des certifications possibles dès 7 ans.
Mmh. Et alors vous intervenez dans les structures scolaires?
Pas forcément,
en dehors.
Non, en dehors. C'est-à-dire qu'on va être vraiment sur le territoire, on n'a pas de lieu particulier, on va être sur le territoire pour offrir au maximum aux enfants la possibilité de venir sur le Tarn-et-Garonne. C'est une association qui est domiciliée à Caussade.
D'accord.
Et qui sera sur des lieux différents, fera des ateliers, des petites conférences et puis l'accompagnement aux enfants.
D'accord.
Alors on en parle au pluriel parce que c'est pas encore fait tout ça.
Au futur tu veux dire?
Alors, on en parle au futur parce que c'est encore à faire.
Voilà, c'est tout nouveau. Donc, on va le présenter au Salon des énergies à Caussade sur les ateliers, puisque ça fait 4 ans maintenant que le salon existe. Ça fait 4 ans que je m'occupe des ateliers enfants et adultes.
Ah, c'est vous !
C'est moi. Voilà. Et donc, en fait, on a vraiment remarqué, enfin, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un besoin. Et puis, apprendre aux enfants, en fait, le salon des énergies, c'est vraiment souvent réservé aux adultes. On va parler justement des problèmes d'adultes. Et on oublie que l'enfant, souvent, il est en stress, qu'il apprend à gérer son stress. Donc, il va y avoir des outils, du yoga, de la méditation. Et puis aussi, apprendre comment, en fait, au sein d'un collège, en primaire, on apprend plus facilement et plus avec ce que l'on est, quoi.
Alors, comment ça se passe, par exemple, maman, papa ou juste maman va avoir les stands à Zenergy et ouais. comment ça se passe par rapport aux enfants? Est-ce que...
Alors, sur le salon, il y a un espace dédié aux enfants.
Oui, ça,
totalement,
je sais, mais...
consacré aux enfants avec une programmation d'atelier sur les 2 jours. Et puis ensuite, on se rencontrera, on pourra discuter aussi des difficultés qu'ils rencontrent. On va animer aussi deux tables rondes.
Qu'est-ce que vous proposez comme atelier pour les enfants?
Alors sur le salon, on va avoir beaucoup de ludique, puisqu'on est quand même sur du ludique, puisque l'enfant apprend naturellement en jouant. Donc on va avoir un atelier sur la magie. On va avoir des ateliers de créativité sur la création de mandalas, sur la créativité aussi de petits objets, fabrication en fait, de doudous, par exemple. On va avoir aussi l'apprentissage de l'anglais, mais en jouant.
Mm-hmm. L'anglais sans douleur.
Voilà, exactement. Mais plus on l'apprend tôt,
oui, c'est clair.
Voilà. Et puis en plus, en jouant, en fait, l'enfant apprend très très vite en jouant. En fait.
Donc, Et est-ce que vous approchez certains domaines, justement, des choses comme le yoga, des animaux, ce genre de choses qui plaisent normalement aux enfants?
Oui, tout à fait. Il y a du yoga, il va y avoir des ateliers de yoga, des ateliers de compteurs aussi, où on travaille aussi sur le langage avec un compteur. On a fait un panel vraiment de...
Et alors, quel âge ont ces enfants?
Sur le salon, on a dit entre 7 et 12 ans. Après, sur l'association, on pourra évoluer sur des enfants de 15 ans, 16 ans.
Non, mais là, juste sur le salon. Donc, comment réagissent les enfants, par exemple, à un cours de yoga?
Très bien. Ils n'ont pas de peur, ils sont naturels, ils ont beaucoup moins de peur qu'un adulte. Donc ils y vont naturellement. Et
rappelez-moi les positions des animaux du yoga. C'était quoi déjà? Vous savez pas? Parce qu'il y avait des singes, il y avait des tas de choses comme ça.
En fait, c'est du yoga nudique. Elles n'utilisent pas les animaux là. Formatrice qui.
En fait, ça commence par les petits enfants à 5 ans qui font des trucs vachement sympas et ça finit par un engagement à l'armée de terre, non?
Non, pas tout à fait.
Il y a toute la palette.
Mais non, t'as rien compris. Et alors, et les parents? Est-ce que vous observez une réticence de la part de certains parents ou une hésitation?
Il y a vraiment une réelle révolution sur les 4 ans, justement. Mmh. Enfin, on a vu vraiment une grande évolution. Au départ, en fait, les parents étaient un peu réticents. Ils disaient, mais bon, voilà, c'est quoi exactement. Et les laisser, c'était un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est les enfants qui demandent à venir et même les parents les laissent naturellement. C'est vraiment, on a une approche beaucoup plus naturelle. Quoi.
Est-ce que vous avez eu des enfants qui demandent à revenir le lendemain?
Oui.
Et du coup, ils reviennent.
Oui, il y a des enfants qui reviennent parce qu'ils ont aimé certains ateliers. Alors, même s'ils sont différents, puisque l'approche est quand même différente sur les 2 jours, on essaie de mettre un panel assez large, mais les enfants reviennent, ouais. D'accord. Et restent en plus.
Ils restent en plus. Ouais. Vous avez du mal à vous en débarrasser, en fait, c'est ça. Bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Non, c'est plutôt positif. Ouais. C'est très positif.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que, dans vos expériences avec Zenergy, donc depuis Là, c'est sa 4e année, donc depuis les dernières 3 années, qu'est-ce qui vous a motivé à aller plus loin dans cette expérience?
On s'est rendu compte que c'était vraiment une attente des parents aussi. On nous a demandé plusieurs fois si on intervenait en dehors du salon, et ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis j'ai fondé, il y a eu un groupe de formateurs, de thérapeutes qui ont voulu travailler aussi sur ce sujet-là qui les intéressait. Et donc on s'est dit, pourquoi pas vraiment proposer ça à toute l'année, quoi.
D'accord. Et alors quel genre d'intervenant comporte l'association du coup?
Alors on va
vous
avoir,
êtes combien?
On est 7.
C'est pas mal.
Voilà, donc on a après des thérapeutes, donc dans le yoga, dans la méditation.
La méditation pour les enfants aussi.
La méditation pour les enfants rentre de plus en plus dans les collèges d'ailleurs. À
c'est
Toulouse,
vrai.
Il y a de plus en plus d'écoles et de collèges qui pratiquent la méditation.
Comment ça se passe dans les classes?
En fait, l'intervenant dans la méditation, quand il y a des cours de méditation, intervient au début de session, début de matinée. Ça donne, en fait, c'est pas très très long, hein. On est sur des horaires de 20 minutes à peu près. Et ça permet aux enfants de se poser, de s'ancrer. Mais il y a vraiment un réel. Quand les enfants en parlent, c'est vraiment très
Qu'est-ce
très riche.
Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants, là-dessus?
Ils trouvent qu'ils sont libérés, qu'ils arrivent plus à se poser, plus à se concentrer. Il y a une approche vraiment.
Est-ce que
de
les
bien-être.
Enseignants font part d'une différence de comportement dans la classe?
Oui, oui. Parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que le matin, on donne du stress à nos enfants parce qu'on est pressé, parce qu'on est pris dans le temps.
Je ne sais pas qui donne du stress à l'autre, mais moi, de mon expérience...
En fait, on se stresse mutuellement, je pense, parce qu'on est pris par le temps.
Moi, j'en avais un qui s'accrochait au mobilier urbain pour ne pas être fourré dans la voiture pour aller à l'école. Donc,
c'est
plutôt stressant.
Voilà. Et de ce fait, en fait, l'enfant arrive dans déjà un climat stressant et stressé. Quoi. Mm-hmm. Donc, la méditation, ça permet de se recentrer, de se repositionner.
On aura tout vu. Normalement, l'école, ça stresse. Qu'est-ce que c'est ce truc où ça détend?
C'est un lieu d'apprentissage.
Et pour apprendre correctement, il ne faut pas être stressé.
Il y a tout l'apprentissage social, évidemment, qui est beaucoup plus facile s'il y a moins de stress.
Oui, tout à fait.
Et est-ce que vous avez eu des remarques de la part des parents qui se plaignent des dérives sectaires de l'enseignement et de l'éducation scolaire en France de nos jours?
C'est compliqué un petit peu. Et puis, c'est vrai que les enfants, ils évoluent très vite. Peut-être que notre système évolue moins vite, en tout cas. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des enfants, mais en fait, on s'aperçoit que tout le monde n'apprend pas pareil, n'apprend pas au même rythme, on n'a pas les mêmes... on est tous différents, et les enfants, ils sont tous différents. Donc, ils ont besoin parfois d'apprendre différemment et autrement.
Mais bon. D'accord, très bien.
Mais les enseignants, alors?
Mais les enseignants, en fait, ils gèrent un groupe, donc c'est quand même beaucoup plus difficile.
Ils ont appris autrement, justement, à apprendre aux autres, s'ils se remettent en cause en disant « Ben ouais, mais moi j'aurais dû méditer depuis vachement longtemps, j'aurais moins distribué le torgnole, je sais pas. »
Après, c'est une évolution aussi, je crois, de la société aujourd'hui.
Et est-ce que les enseignants suivent cet exercice ou pas?
L'association qui existe sur Toulouse et sur la France sur la méditation, il y a de plus en plus d'enseignants qui demandent à ce que cette association rentre aussi dans les écoles.
Mais est-ce qu'eux, ils se mettent à la méditation aussi ou pas?
Après, je crois que c'est vraiment une démarche personnelle.
Ouais, ouais. Voilà. Non, mais puisqu'il y a l'exercice en classe, il pourrait très bien...
On n'a pas de statistiques, de plus en plus d'enseignants qui quittent l'éducation nationale, du coup, dégoûtés.
Sans passer par la fenêtre, si possible.
Non, après, on n'est pas vraiment là pour faire un jugement de valeur sur l'éducation d'aujourd'hui, parce que... Elle apporte plein de belles choses aussi.
Non, mais c'est pas du tout ce que j'insinuais.
Mais voilà, nous, on vient un peu en complément.
D'accord, très bien.
Deux et deux, quatre, quatre et quatre, huit. Huit et huit font 16, répétez, dit le maître. Deux et deux, quatre, quatre et quatre, huit. Et huit font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux et deux, quatre, répétez, dit le maître. Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. Quatre et quatre, huit. Et huit font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. 16 et 16, et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et huit à leur tour s'en vont. Et quatre et deux à leur tour affichent le camp. Et un ne font ni une ni deux. Un et un s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante. Et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient. Plume redevient oiseau.
CFM.
Jacques Prévert, Yves Montand dans Alternative, l'émission de Laure Rose aujourd'hui avec Martine Julien de l'association Évolescence.
Alors, on parlait de tout ce que vous proposez à l'association. Et moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous motive le plus? Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cette association?
Le fait d'accompagner les enfants sur l'orientation et sur le fait de s'affirmer eux-mêmes, de se connaître eux-mêmes pour mieux choisir demain. Quoi. Voilà. Vraiment leur ouvrir le chemin, la voie des possibles. Quoi.
D'accord. Voilà.
Parce qu'en fait, ça pose vraiment la question de savoir est-ce qu'on doit laisser nos enfants rêver ou est-ce qu'il faut vraiment les pousser à être réalistes sur un monde économique pas facile. Donc, c'est un peu cette question qui nous motive pour en fait dire on pense en tout cas que la réponse est vraiment de travailler sur les différentes compétences. Et souvent, on travaille sur les savoir-faire, mais on oublie les savoir-être et les savoir-apprendre. Donner vraiment à ces enfants la curiosité d'apprendre, d'expérimenter, pour que demain, ils puissent aussi se connaître eux-mêmes et savoir sur quelle voie ils ont envie d'aller.
Est-ce que vous avez des exemples de ce qui se passe, des erreurs d'orientation qu'on peut avoir aujourd'hui?
Oui, je pense qu'en fait, souvent, on est orienté parce que c'est le système, on a un choix possible, mais le choix il est assez restreint, on l'exploite trop tard en fait. On demande aux enfants en troisième de s'orienter ou en terminale, mais je pense que l'orientation elle démarre dès le primaire. C'est déjà de pouvoir laisser aux enfants faire de la créativité, de choisir, d'expérimenter.
Donc vous trouvez aujourd'hui que la part à la créativité est trop faible dans l'enseignement ?
Je pense qu'en fait, on a peut-être pas le temps de faire vraiment de la créativité. Et
la maternelle, c'est...
Oui, c'est très très vite, on est très vite sur les savoirs. On n'est pas sur les savoir-faire, savoir-faire, oui, mais savoir-être et savoir-apprendre, pas forcément.
Savoir-être, c'est toute une grande question, ça.
Tout à fait. Mais bon, c'est vraiment, en fait, il faut quand même rester objectif, parce qu'après, ils sont dans un monde économique, donc réel, il faut quand même les préparer aussi à cette réalité du terrain qui existe, mais laisser aux enfants quand même la possibilité de rêver, quoi. Parce que très très souvent, en fait, nous parents, en fait, on conditionne nos enfants en disant non, arrête de rêver, tu seras jamais astronaute, tu seras jamais
et c'est artiste.
Dommage, voilà, ouais, exactement, ouais. Parce que souvent, ils ont des rêves d'enfants et souvent, même inconsciemment ou consciemment, on leur dit non, mais c'est peut-être trop compliqué, ça peut pas se faire, il y a pas beaucoup de possibilités. Alors qu'un enfant qui a vraiment l'envie, il peut vraiment aller très loin.
Et pour bien vous punir, un jour, vous voyez venir des enfants non voulus qui deviennent chevelus poètes, disait le poète.
D'accord. Et oui, donc vous avez remarqué certainement que les enfants qu'on pousse vers une certaine orientation, parce que ça fait sens sur le plan économique.
Oui, c'est des projections des parents, on se projette aussi dans nos enfants, donc naturel.
Est-ce que cette génération se laisse faire, en fait ? Moi, j'ai l'impression que les enfants se laissent de moins en moins
aujourd'hui,
faire.
Aujourd'hui, ils se laissent de moins en moins faire parce qu'ils ont accès à beaucoup d'informations. Je pense qu'il y a cette ouverture au monde aussi, peut-être qu'il y avait moins avant, cette ouverture à l'information, aux nouvelles technologies, à ces apprentissages. Donc, c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup plus autonomes. Ils ont encore plus envie, je crois, une curiosité qui se développe.
Ce qui est étonnant, je trouve, moi, c'est qu'ils ont beaucoup plus d'informations que la génération précédente, au même âge, mais ils sont beaucoup plus sceptiques.
Pourquoi Tiens, on va poser des questions à Joanne Péricas pour changer un peu. Pourquoi dis-tu ça ?
Parce que j'ai l'impression que comme il y a une multitude de sources et que toutes ne se recoupent pas, l'effet obtenu, c'est de se dire « Ouh, je devrais me méfier de ce qu'on me raconte ».
Ça, c'est plutôt aussi. Bien, hein. C'est plutôt bien, parce que...
Je portais pas de jugement.
Non, mais parce que, je me rappelle des débuts de... Mais même par rapport au livre...
Je me rappelle de mon temps, oui.
Non. Par rapport au livre, on avait cette idée que tout ce qui était imprimé était vrai. Et avec Internet, il est très clair que c'est pas le cas.
Donc ça permet aussi de développer son propre opinion.
Ouais. Et puis on n'est plus non plus dans le truc vu à la télé, donc ça veut dire que c'est vrai, quoi. Je pense que les gosses ont effectivement plus de recul.
En fait, les enfants, ils ont plus de recul, plus d'informations, mais ils ont aussi parfois du mal à synthétiser, s'imprégner de ce qu'eux, ils voudraient faire, parce qu'ils s'oublient un peu eux-mêmes, parce qu'ils sont noyés par la masse d'informations. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je pense que plus on travaille jeune la créativité, plus on va se connaître et mieux après on appréhendera les informations.
Et alors, est-ce qu'on n'est pas justement dans deux catégories d'informations ? Parce que là, on parle d'Internet, à la limite de support écran, que ce soit Internet, la télévision ou des choses comme ça. Mais le côté palpable qu'il y a dans des ateliers de créativité, fabriquer des choses soi-même, être confronté à un autre gamin...
C'est apprendre déjà à collaborer.
Faire des pâtés.
Exactement. C'est apprendre à collaborer, c'est apprendre à créer avec ses mains, c'est apprendre à expérimenter, à se tromper aussi, parce qu'on n'est plus derrière un écran, on ne peut plus se cacher. On est son propre héros, parce que les enfants s'identifient beaucoup, ils jouent beaucoup, parce qu'en fait, ils jouent pour s'identifier à un héros, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, il faut qu'ils soient eux aussi acteurs de leur propre envie et qu'ils soient aussi des héros personnellement, sans s'identifier à un héros complètement abstrait.
Oui, parce que Internet, c'est presque une réalité autre pour eux.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, je sais qu'il y a des difficultés quand ils apprennent à conduire, parce qu'ils ont une espèce de manque de coordination physique pour s'orienter dans l'espace.
D'accord.
C'est quelque chose qui m'a été rapporté par les moniteurs d'auto-école.
D'accord.
Tellement ils ont l'habitude de jouer sur écran.
Oui, parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont, ils perdent de la dimension espace.
Bah, vivement les PlayStation en 3D. Hein.
Écoute, oui, avec les casques, ça vient. Hein, tu sais, je crois que ça existe avec les casques intégrés, les trucs comme ça.
Simulateur
de
pilote de chasse.
Après, c'est tout ce qui est informatique est intéressant aussi. On a développé en pédagogie, on peut faire plein de choses.
Mais je pense qu'il faut
un mix.
Ça.
Voilà, il faut un mix entre vraiment ce que il faut pas oublier, d'expérimenter surtout et de laisser aller ses rêves, parce que plus on est, quand on expérimente, bon, lâche ses rêves, quoi. Alors que derrière un écran, on est quand même conditionné déjà. Il y a une programmation, il y a un objectif qui est bien défini, c'est d'aller gagner.
Et puis il y a le côté addict, il faut passer au niveau supérieur et se battre contre le prochain monstre et tout
ça. Et donc après, ça crée une addiction. Et, donc il ne faut pas oublier de sortir les enfants de ces écrans.
Et même je trouve intéressant votre opinion selon laquelle la créativité est finalement ce qui amène à la connaissance de soi.
Oui, tout à fait. Ce qu'on prend avec des ateliers, on va révéler qu'on a plus une affinité sur tel ou tel pôle, qu'on est plus manuel peut-être, plus dans le dessin, plus... Enfin voilà, puis on va découvrir aussi des métiers. Dans la créativité, on peut aussi découvrir des métiers. Je pense qu'il faut que les enfants aussi puissent se connaître des métiers, arrêter de partir sur des schémas définis sur des métiers qu'ils ne connaissent pas.
Mais je pense
que souvent, on dit, tel métier, c'est... Et en fait, quand ils expérimentent, ils trouvent ça très très bien.
Je pense qu'il y a une ignorance aussi, quand on est au collège, qu'on doit choisir son orientation, il y a une ignorance des métiers qui existent vraiment.
Tout à fait.
Parce qu'entre vétérinaire, dentiste et avocat, il y a plein d'autres métiers qu'on ne connaît pas du tout.
Il y a pompier.
Et puis il y aura d'autres métiers aujourd'hui. Je pense que nos enfants, ils connaissent pas aujourd'hui peut-être les métiers qu'ils feront demain.
Je pense qu'ils n'existent pas encore, les métiers qui feront demain. Ouais.
Voilà, donc c'est vraiment vraiment ouvrir cette possibilité.
Alors est-ce qu'il faudrait un rapprochement de, par exemple, des collèges et des entreprises? Est-ce que ça vous paraîtrait souhaitable?
Ça commence à. Ils ont des petits stages, peut-être pas suffisamment. Dans certains pays, on développe encore.
Oui, c'est vrai qu'il y a
les
stages en troisième.
Oui, mais c'est peut-être un petit peu tard. Mais après, on peut très bien faire des rencontres en dehors de l'école et aller voir certains métiers.
Il va y avoir les prochaines rencontres métiers, emploi et territoire qui vont avoir lieu courant avril à la Albonaïs, comme le Salon des énergies du 9 et 10 avril.
Avec
À quel point pensez-vous qu'il faut les guider vers leurs rêves plutôt que vers la réalité? Sûrement, il faut faire quelque chose au milieu.
Je pense qu'il faut un compromis. Voilà, il faut.
C'est-à-dire qu'un gamin qui vous dit qu'il veut être astronaute, vous en faites quoi, vous?
Ben, pour l'instant, aujourd'hui, je lui dirais, continue à rêver.
Envoie-toi à l'air d'abord.
Non, je pense qu'il ne faut pas leur dire, non, ça ne sera pas possible, parce qu'après, dans l'astronomie, on va trouver plein de métiers aussi, de métiers nouveaux. Donc, s'il est déjà passionné par ça, peut-être qu'il ne sera pas astronaute, effectivement, mais peut-être qu'il aura un métier ou quelque chose, une passion qui va développer. Quoi. Mm-hmm. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les enfants développer leur passion aussi. Mm-hmm. Donc, il y a plein d'associations, d'activités. Ils ont quand même un panel d'activités extrascolaires qui est beaucoup plus important qu'avant. Donc, ils peuvent plus expérimenter, peut-être.
Et selon vous, quel serait le schéma idéal de l'orientation? À quel âge il faudrait commencer à s'intéresser
à tout
ça? Oui,
d'abord, qu'est-ce que vous proposez, hein?
Non, mais voilà.
Ouais, soyons concrets. Non, je pense que...
D'accord, plus de créativité.
Ouais, je pense que dès le plus jeune âge, en fait, apprendre à l'enfant à se connaître. Donc voilà, exploiter, mais qu'il est, que les parents aussi connaissent plus, parce que nos enfants, ils sont tous différents, ils ont tous des envies différentes, ils ont des appétences sur certaines choses naturellement aussi, parce qu'ils y vont naturellement. Un enfant, avant qu'il soit conditionné, en jouant, il va déjà créer son monde, quoi. Après, on va plus le conditionner, parce qu'on va lui donner des règles, des savoirs, mais il a déjà plein de savoirs tout seul, quoi.
Est-ce que vous pensez que un adolescent est déjà porteur de tous les éléments qui va intégrer dans sa vie professionnelle plus tard?
Pas du tout.
Non.
Non. Non, je pense qu'on a des choses au fond de soi, mais après, je pense qu'on apprend tout au long de la vie. Et donc, l'évolution de carrière, aujourd'hui, je pense que on rentre dans un métier et on fera, nos enfants, en tout cas, ils feront plusieurs métiers.
Non, mais je parlais plutôt des rêves, voilà, et des idées,
toutes les richesses. Ils sont déjà, ils ont des rêves, ils ont des envies, ils ont envie de. Mm-hmm. Ça, c'est sûr.
Et est-ce que les parents connaissent suffisamment leurs enfants?
Peut-être pour les guider. Peut-être parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être on prend moins le temps d'être avec eux, de partager avec eux, parce qu'on est pris aussi dans nos activités professionnelles et qu'on accorde moins de temps à nos enfants, donc on les connaît moins. Mmh. Voilà. Puis c'est vrai qu'après, ils sont plus dans leur jeu, peut-être. Donc on partage moins. Avant, on faisait beaucoup de jeux de société avec les parents.
Moi, j'ai lâché un Pokémon avec les miens. D'un seul coup, je comprenais plus ce que disaient mes enfants. Il y avait un vocabulaire extraordinaire.
Voilà, après, ils rendent des langages. Mais c'est bien de repartir peut-être parfois aux sources, s'octroyer une après-midi où on va jouer ensemble, où on va aller découvrir la nature ensemble, où on va...
Parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très difficile pour des parents de guider les enfants sans piétiner.
Sans les conditionner. Sans,
voilà, c'est quand même compliqué. Quelle est la meilleure façon de s'y prendre?
Mais il n'y a pas une association qui aide les parents?
Oui, ça serait aussi, il y en a. Mais selon vous, qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents pour mieux accompagner leurs enfants?
Je pense de rester à l'écoute, de partager. Mmh. Et d'éviter d'avoir déjà peut-être de leur transmettre moins leurs peurs, quoi, parce que souvent on projette nos peurs dans nos enfants, en fait, donc on les empêche, du coup on les conditionne très vite.
Oui, ne fais pas ça, tu t'en sortiras jamais, il y a
des charges
sociales.
Descends de là, tu vas t'emmener.
Voilà. Par exemple, très petits, on les conditionne parce qu'on a peur qu'ils s'expérimentent, alors que certaines civilisations,
on a grimpé aux arbres, nous aussi. Hein.
Bien sûr, et puis même si, ils tombent, on apprend en marchant, en tombant. Donc, je veux dire, il faut aussi peut-être démystifier un petit peu l'erreur, quoi. De dire, on a le droit de se tromper, on a le droit de revenir sur des décisions qu'on a prises. Rien n'est figé.
Les choses sont souples. Les adolescents peuvent avoir très peur de s'engager dans une formation, un apprentissage, voire un premier métier, parce qu'ils peuvent avoir l'impression que ça va être comme ça pour le reste de leur vie.
Oui, parce que c'est en fait, choisir, c'est renoncer. Donc, ils se disent que s'ils vont dans cette voie-là, après, derrière, ils seront peut-être bloqués. Aujourd'hui, je pense qu'avec quand même la formation tout au long de la vie, il y a plein de passerelles aussi.
Mmh. Mais on va quand même parler des filières un peu, non?
Oui, sûrement, oui. Après une petite chanson.
Allez.
Allez.
Général bol de ces écrans qui essayent de voler mon âme, qui me font vivre des enterrements alors que je traverse Paname, qui me font oublier les gens insensibles à mes états d'âme, trop occupé à essayer de géolocaliser ma femme. Je voudrais t'envoyer valser parce que je vois bien que tout est biaisé. Ils se sont partagés le gâteau, ils ont même bouffé les couteaux, puis leur pognon c'est du mytho, font crever la moitié des gens pour maintenir leur foutu taux. Et puis ils se disent intelligents, il y a deux fois et demi à bouffer pour tout le monde sur cette planète. C'est un problème de répartition, donc arrête de partir par le net, puisque leurs banques sont en réseau, qu'ils ont aucune difficulté à assurer des livraisons de pesticides au Zimbabwe. Moi je voudrais leur péter la gueule, et je parie que je suis pas le seul. J'ai un ras-le-bol de ces écrans qui ont hypnotisé ma femme, qui lobotomise mes enfants à coups de McDo et de Spider-Man, véhiculant en permanence des images de premier choix sur une séquette de conflits sanglants qui fera l'objet de leur choix. Je voudrais leur péter la gueule, et je parie que je suis pas le seul. J'ai ras-le-bol de ces écrans qui trouvent plus mon numéro de keuf, alors qu'ils trouvent si facilement toutes mes amendes SNCF. À croire que dans chaque ordinateur y a un cerveau de petit faf qui ne veut compter les zéros que quand il s'agit des bénéfs. Je voudrais leur péter la gueule, et je parie que je suis pas le seul. J'ai ras-le-bol ces écrans qui sont meilleurs que tout ce que je bouffe, à qui j'ai laissé mes enfants et avec combien de femmes je couche. Quand j'ai cette saleté dans ma poche, je pense au recoupement des fichiers. Je me dis que ma bonne femme tôt ou tard finira bien par me griller. Je me dis que de toute façon c'était foutu, que c'est pas la première partie de fesse, qu'il vaut mieux glisser sur un cul que passer sa vie à confesse. Au lieu de se mater un porno sur un écran de 32 pouces, je préfère aller à Bornéo et retrouver Zora Rousse et surtout leur péter la gueule. Paris, combien que je serais pas le seul. Je me dis quand même dépêche-toi, tant que t'as pas les puces sur les yeux, tant que t'as pas l'écran sur les doigts, tant qu'ils t'ont pas mis le wifi direct sur le nerf auditif, tant que t'es pas dans ton cerveau, car elle est un fugitif. Dépêche-toi de t'arrêter les deux. En finesse d'un seul coup d'un seul. Dépêche-toi de leur casser la gueule. À 7 milliards ou même tout seul. Dépêche-toi de leur casser la gueule.
CFM.
Les écrans sous Prisma Arakas dans Alternative, l'émission de Laure Rose, aujourd'hui avec Martine Julien de l'association Évolescence.
Oui, et donc on parlait, Johan posait la question des filières. Effectivement, ça peut être délicat quand on ne sait pas encore très bien qui on est, que les rêves ne sont pas encore fixés sur des choses bien précises, de s'engager dans une filière qui va être... je sais pas moi, orienté vers une profession très très serrée finalement.
Oui, très tôt, oui. Donc je pense qu'il faut laisser, il faut que les enfants, ils se donnent peut-être la capacité de quand même de rentrer dans ce contexte scolaire et de se dire qu'ils ont, à un moment donné, s'ils se trompent d'orientation, ils ont quand même le choix de revenir sur d'autres filières. De pas rester. On a, je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête qu'on a toujours un choix à faire. Et qu'on a des possibilités et qu'il ne faut pas, il faut pas renoncer. Quoi.
Alors, il faut convaincre les conseillers d'orientation de ça.
Ça peut manquer de passerelle quand même, hein, parce que je sais que, enfin moi, mais pour parler de choses plus personnelles, mes deux enfants ont fait des choix plutôt professionnels, même à un bon niveau, et après, pour revenir vers des choix plus généraux, ça a été très compliqué, voire impossible.
Oui, parfois c'est un peu compliqué, c'est un peu fermé. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on a quand même créé la formation tout au long de la vie. Donc on peut revenir sur d'autres systèmes, peut-être sur de la formation plus professionnelle que scolaire.
Mais du coup, on peut commencer à travailler par des petits boulots à certains niveaux et puis refaire de la formation, c'est un peu compliqué quand même.
C'est un peu plus long. Mais c'est aussi un bel apprentissage parce que ça permet de connaître d'autres choses et de s'enrichir. Parfois, on va dans une voie et puis on revient sur une autre, mais en fait, c'est vraiment très, très complémentaire.
Et puis après, on fait un bilan de compétences, on fait une valorisation des acquis de l'expérience.
Il faudra que j'essaye, ça. Quel un jour, truc, ça a l'air sympa. Ouais. Ouais.
Quel truc, c'est ça.
Mais c'est vrai que les enfants, quand ils ont des envies, je pense qu'à un moment donné, même s'ils partent sur une orientation, ils y reviennent. Et parfois, il ne faut pas dire... hier, justement, j'en parlais avec... Je vais prendre un cas concret. Des amis qui ont une jeune fille qui a fait des études, qui est allée à l'université, mais son rêve depuis toute petite, c'était d'être dans la pâtisserie. Et un jour, elle a dit, j'arrête. J'arrête l'université, je repars faire un CAP. Et là, aujourd'hui, elle réussit très très bien, on lui confie plein de missions, et elle prend de l'envergure dans son métier.
Et pourtant, elle est dans le pétrin.
Non, elle n'est pas dans la boulangerie, elle est dans la pâtisserie.
Moi, j'ai une frangine qui s'appelle Fleur, qui se reconnaîtra parce qu'elle écoute l'émission très souvent. Elle a passé un CAP de fleuriste après une licence de psycho.
Voilà.
C'est normal, ça, madame?
Licence de psycho, c'est quand on ne te prend pas en socio, c'est ça?
C'est ça. Bon, en tout cas, elle n'a pas voulu de ça non plus. Et voilà. Ça, c'est tout à fait...
Après, c'est aussi apprendre à se tromper. Et puis, peut-être pas une erreur, quoi. C'est aussi parce qu'on est attiré par deux domaines. Et ça fait une complémentarité et ça construit la personne.
Est-ce qu'on peut faire, par exemple, une licence pour faire plaisir à maman et puis ensuite se diriger vers...
Parfois, ça arrive, on a la pression aussi.
D'un métier qu'on veut vraiment
c'est vrai
faire.
Qu'on donne, quand même, on a peut-être pas aussi peur économiquement pour nos enfants. Donc, on va peut-être les orienter leur dire, vaut mieux que tu ailles vers là, parce que là, c'est plus porteur aujourd'hui, etc. Mais en fait, on oublie que ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Et qu'un enfant ou une personne qui n'est pas bien dans son métier ne sera jamais épanouie, ne fonctionnera pas très très bien.
On ne sait pas en même temps le nombre de jeunes qui font une première année de médecine et puis qui arrêtent, et puis qu'il manque de tout bide dans les zones rurales, c'est quand même dingue ça.
Bah écoute, moi, je sais pas, quand on
c'est
était
quand, même dingue,
quand on était jeunes, les filles qui faisaient médecine, c'était pour trouver des époux. On a quand même vachement évolué
depuis.
Ah oui, ça,
c'est pas le même objectif aujourd'hui.
Il fallait faire droit ou médecine pour trouver un mari.
Ah,
je me rappelle de ça. J'avais pas trop suivi le conseil. Mais
c'est à ça que ça sert, la fête des carabins.
C'était sûrement ça. Si je me souviens bien, moi, l'orientation, c'était... À l'époque, les filles devaient faire apprendre des langues. Elles faisaient A3 parce qu'elles avaient trois langues. Ce qui leur permettait de faire un BTS tourisme.
Je
alors,
ne
je sais
ferai
pas, si...
pas de remarques sur le fait que les filles aient trois langues.
Non, c'est mieux. Et donc, je ne pense pas que toutes les filles de mes générations soient dans le tourisme.
Non.
Et les garçons, ils devaient faire maths.
Scientifiques.
Et ils devaient tous devenir informaticiens. Et il y en a plein qui se sont retrouvés au chômage parce qu'on n'a jamais
parce
eu de quoi recruter tous ces informaticiens.
De l'information de masse et du coup de la formation de masse.
Surtout,
c'est un peu dommage.
Surtout s'ils ont appris le Pascal et le Cobol. Hein. C'est des trucs qui servent à rien maintenant, c'est quand même dingue. Mais
toi, tu parles vraiment des langues anciennes, là, quand même.
Oui, oui, de mon temps.
Les langues mortes, ça s'appelle ça.
Voilà. Mais il y en a de plus en plus qui ignorent complètement la couture parmi les filles, j'ai remarqué.
Bah écoute, moi je sais pas, quand j'ai essayé d'apprendre à mes garçons, je leur ai dit recrutement général, on va apprendre à faire un ourlet, parce que je viens de rencontrer un homme qui avait un paperclip, un trombone pour tenir son pantalon. Je trouvais que c'était pas très sérieux. Mon plus jeune fils m'a dit, moi je n'ai pas l'intention dans la vie d'avoir des pantalons qui ont besoin d'ourlets.
Oui, et puis les épingles nourrices font largement l'affaire.
Mais ça, c'est
parce
qu'on
se
les
débrouille en tout cas.
Voilà.
On dévie un peu, non?
On en a un petit peu.
Mais dans les ateliers, on fait de la couture.
C'est
justement
vrai
pour la création des doudous. Et l'année dernière, j'avais remarqué qu'il y avait une mixité. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, très intéressant.
Alors, bon, justement, parlons des ateliers un petit peu. Dites-nous ce qui va se passer à Zénergie.
Donc Zénergie, c'est
quoi
sur deux jours.
Pour les enfants.
Oui. Donc ça va être sur deux jours. On va commencer les ateliers. Donc, on a plusieurs ateliers. On va faire donc la découverte du yoga. On va aussi.
Qui c'est qui s'occupe de ça, la découverte du yoga?
C'est Christine Bruno. Donc là, après, on va avoir un atelier sur justement. Donc en fait, on commence samedi matin. Les ateliers commenceront à 11h, globalement, pour que ce soit accessible à tout le monde. Il va y avoir un atelier, c'est un atelier parfum. T'as du flair, en fait. C'est pour
un atelier par
de parfum.
De parfum.
Ouais,
d'accord.
Connaître, en fait, les différents parfums.
Sur le sensoriel.
Sur le sensoriel, pour travailler justement tous les sens. En fait, c'est vrai que l'enfant aussi, il faut lui apprendre à travailler tous ses sens. Quoi.
Ouais. Donc,
on va travailler sur le parfum avec
Clément
Sumillier.
D'accord.
On va travailler donc avec Évolescence sur la développer sa créativité. Donc, on a prévu plein de petites choses, des créations.
Et ça, c'est lapins, pour quel âge, l'atelier que vous organisez, vous?
Alors, on est entre 7 et 12 ans.
C'est l'atelier chimiste.
Voilà.
Chimie 2000. T'avais pas eu ça, toi, à Noël?
Non.
Une boîte de chimie 2000? Non.
Ça m'a manqué.
Ta maman n'a pas eu confiance, à mon avis.
Et l'après-midi, on va démarrer par l'atelier du petit Merlin avec Franck, qui est un magicien. Et qui va vraiment les amener.
Ça a l'air sympa, votre truc. Vous êtes sûr que vous arrêtez à... C'est quel âge déjà?
7-12 ans, mais...
Après... On est trop grands, nous.
Mais parfois, il y a des parents qui participent aux ateliers avec les
parce
enfants.
Que ça a l'air
mais c'est
quand
bien
même
aussi,
super
parce que
sympa,
l'intergénération, les choses, les échanges, un enfant est souvent attiré par plus grand que lui, donc c'est très, très intéressant
d'avoir
un mélange.
C'est un atelier enfant et parents frustrés.
<C'est ça. rire> Ensuite, on va faire la création du mandala. avec Elisabeth Lalande et son mari. Donc là, on va travailler sur du tissage, puisque c'est avec de la laine. On va créer en fait des vrais mandalas. On va donc après travailler de la, une création de doudou avec Christelle Mététal, écossaine. Et puis aussi, en cette année, l'association Énergies est en, essentielle, est en lien avec les Nez Rouges. Donc les Nez Rouges aussi interviendront sur des maquillages, sur des ateliers avec les enfants.
D'accord. Oui, Essentiel étant l'association qui dirige, qui anime, organise le salon d'énergie.
Salon d'énergie qui a lieu les 9 et 10 avril à l'espace Bonaïs de Caussade, et je le dis pour ceux qui auraient raté le début.
Et parce qu'on a une jolie affiche violette et verte, très réussie cette année, je trouve.
Et plein de couleurs. Voilà, et donc le dimanche, on va retrouver la découverte du yoga. On va apprendre l'anglais par le jeu, le matin, avec Évolescence.
Et vous avez beaucoup de candidats pour l'atelier d'anglais, comme ça, le dimanche matin?
L'anglais.
Oui,
c'est vrai.
Oui, parce qu'en fait, on le fait par le jeu, donc... On va avoir encore une création de doudou avec une autre personne, avec Arne Jacquard, qui va travailler différemment. On a les Nez Rouges qui reinterviennent sur les maquillages, le yoga, développement de sa créativité, un atelier de peinture aussi, avec Eric Tidani, et ensuite du conte.
D'accord.
Alors tout ça, c'est les activités enfants, puisqu'en réalité, le Salon d'énergie, il y a des conférences, des ateliers, des stands.
Il y a plein de choses.
Il y a plein de choses.
Mais Martine est chargée d'organiser un petit peu tout ce petit monde autour de l'enfance.
De l'enfance et des ateliers adultes, puisqu'aussi, les adultes aussi auront leurs ateliers avec la possibilité aussi d'expérimenter.
C'est-à-dire ?
Ils vont avoir du yoga, il va y avoir...
Avec vous, votre association ?
Avec le salon de
Cossette. Ah oui, avec le salon, oui. Vous organisez, en plus des ateliers enfants, vous organisez des tables rondes ?
Oui, on va travailler sur justement l'orientation scolaire, ouvrir le chemin de ses goûts et de ses rêves. Donc ça, c'est une table ronde qui sera le samedi. Et ensuite, le dimanche matin, dimanche dans l'après-midi, on va aussi faire une conférence, une table ronde sur apprendre par le jeu. C'est ludique, mais c'est sérieux. En fait, parce que souvent, on a l'impression que quand on joue, on n'apprend pas. Alors qu'au contraire, on apprend.
C'est très important, le jeu.
Oui. Et le jeu, en fait, on peut jouer à n'importe quel âge. Et apprendre par le jeu à n'importe quel âge.
Et alors, qui avez-vous comme intervenant dans ces tables rondes ?
Dans les tables rondes, on va avoir des...
Autour de ces tables rondes, pardon.
Des personnes, sur apprendre par le jeu, on va travailler sur l'anglais, précisément, entre autres, mais pas que. On va montrer, en fait, les outils que l'on utilise pour l'apprentissage et le jeu. Voilà. Donc avec, parfois, des personnages, des Playmobil, des Lego, montrer qu'en fait, on peut vraiment matérialiser, en fait, des leçons, montrer qu'on peut, toucher, expérimenter. Parce que les mathématiques, parfois, c'est aussi abstrait. Et le fait de le travailler...
Comment ça, parfois, c'est aussi abstrait ? C'est toujours abstrait, les mathématiques.
Mais bon, du coup, c'est arriver à matérialiser par des Legos, des choses comme ça. Et les enfants, ils apprennent beaucoup plus facilement.
D'accord.
Puis après, il y a des méthodes comme le mind mapping qui vont permettre aussi aux enfants
de dessiner. Je vous arrête tout de suite. Mind mapping. C'est très intéressant, ça. Expliquez-nous un peu.
Des cartes mentales, en français. Donc là, on va travailler sur la créativité encore, puisqu'on va utiliser des couleurs et que l'enfant s'approprie ses propres couleurs. Et en fait, on résume une leçon, mais par un dessin, par des pictogrammes qui lui sont propres. Et donc, en fait, c'est des enfants qui ont une mémoire très visuelle et ça fonctionne très très bien.
Mais tous les enfants ne sont pas visuels ?
Non. Donc là, ça fonctionne moins bien. Donc là, on travaille plus sur l'auditif, par exemple. Donc là, c'est plutôt des poèmes, des chants. En fait, l'enfant va avoir plusieurs méthodes d'apprentissage. Donc il va falloir... Il y a des enfants aussi qui ont besoin de bouger. Donc on fait des mises en scène. On s'adapte.
Est-ce que je peux poser une question personnelle ? Vous, comment êtes-vous arrivé non seulement à vous intéresser à tout ça, mais à apprendre tout ça ?
Je suis très passionnée par tout ce qui est pédagogie. Je travaille pas mal avec les enfants, mais quand j'étais étudiante, je donnais des cours. Et c'est vraiment un monde qui m'a toujours passionnée et fascinée. Donc j'apprends au fur et à mesure des échanges, justement. Je trouve que c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'il faut apprendre aux enfants, c'est échanger, aller à la rencontre des gens, et voir tout ce qui se passe. Il y a plein de choses qui se passent. Et c'est ça qui fait la richesse.
C'est la passion, donc.
Et la passion. Donc l'envie.
Ça vous demande beaucoup de temps ? cette association, oui.
Un petit peu, mais bon, voilà, quand on aime, je crois qu'on compte pas.
Mais je suppose que l'interactivité entre les intervenants doit être très enrichissante.
Oui, et puis on est tous porteurs des mêmes valeurs. Et donc on s'est vraiment retrouvés sur ce projet parce qu'on est tous porteurs des mêmes valeurs et on a envie de transmettre. Voilà. Mmh. Après, Évolescence, ce n'est qu'un acteur, en fait, parmi d'autres. Donc je crois aussi qu'il faut laisser se dire que voilà, on peut apporter quelque chose, on peut amener les gens sur un chemin, mais il faut qu'ils ouvrent aussi sur d'autres. On n'est pas tout seul, quoi. C'est parce que là, j'insiste sur la partie orientation, notamment quand on prend des décisions, c'est se dire, on rencontre une personne ou une association, mais on en a d'autres et je pense qu'il faut élargir. On ne détient pas la connaissance parfaite, enfin, en tout cas universelle. Et ça, il faut que les gens arrivent à se projeter soi-même et à se dire, moi j'ai le choix. Quoi. Parce que souvent, en fait, on est vraiment très, très conditionnés.
Mais les adultes...
Les adultes le sont aussi.
Le sont aussi. Alors comment voulez-vous qu'on apprenne à nos enfants à ne pas l'être?
Oui, tout à fait.
Comment faut-il faire? je vous pose
pour
la
ça
question.
Que, bon, voilà, c'est pour ça que aussi, plus... C'est, en fait, Évolescence, c'est aussi un réseau. C'est de travailler avec une multitude de personnes. On va faire des conférences. J'ai rencontré quelqu'un, par exemple, qui travaille sur les émotions des enfants. Mm-hmm. Apprendre à exprimer ses propres émotions, c'est pas évident.
Bien sûr.
Parce que, voilà, donc souvent, on l'apprend beaucoup plus tard et on en a souffert entre-temps. Et donc, là, elle travaille sur plein de techniques, et notamment l'approche avec des gros doudous, etc., pour exprimer ses émotions, et c'est très important. Donc voilà, on va faire intervenir d'autres personnes qui vont se mettre sur notre chemin aussi et qui auront envie de travailler avec nous.
Et si jamais vous êtes en colère, les gros doudous, vous leur faites quoi?
Dessus,
on va faire je vais arracher les oreilles.
Je pense qu'après, voilà, il faut libérer, en tout cas, il faut apprendre aux enfants à se dire, aujourd'hui, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Hein, parce que souvent, on ne prend pas ce temps-là.
It's been said and done. Every beautiful thought's been already sung. And I guess what now? Here's another one. So your melody. We'll play on and on with the best of them. You are beautiful, like a dream come alive, incredible. A sinful miracle, lyrical. You saved my life again. Hey, I love you like a love song.
Like a love song, baby. I love you like a love song, baby.
Cat Country dans Alternative, l'émission de Laure Rose avec Martine Judien, les 10 dernières minutes.
Alors, on a évoqué la technique du
mind mapping.
Mind mapping. Oui. Alors, de ça vient d'où cette technique ?
Alors, ça, c'est une. En fait, ça a été créé dans les années 70. Mm-hmm. Et puis, donc, on s'en servait plus dans le milieu professionnel pour synthétiser la masse d'informations qu'on pouvait avoir. Et donc, c'était une technique qui était un peu réservée aux professionnels au départ. C'était comme une prise de notes, mais un peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en linéaire les notes, on dessine. Voilà. On dessine des cartes.
Bon, parce que j'ai vu des images, effectivement, de schémas avec des flèches un peu...
Voilà, alors, c'est compliqué quand on le fait pas soi-même, parce que ça paraît tellement compliqué. Ouais. Et en fait, je pense que c'est amener l'enfant, l'adolescent à travailler avec cet outil pour se l'approprier, quoi.
Oui, parce que finalement, notre esprit est beaucoup plus compliqué que d'écrire d'un sens dans l'autre et de haut en bas, quoi.
Donc, exactement. Ouais, et souvent, en fait, on arrive... Et après, quand on en a pris l'habitude, ça devient un réflexe et on map pour plein de choses.
Voilà. On ne peut pas dire cartographier, par exemple, je ne sais pas, moi.
Excusez-moi, ça s'appelle mapper. Non, et donc, ils vont trouver aussi des logiciels sur les tablettes qui peuvent aussi les aider à le faire.
Il y a des logiciels pour ça.
Oui, il y a des logiciels. Mais je pense qu'il faut vraiment passer par la phase expérimentation, prendre des crayons de couleur, dessiner, se l'approprier. Et après, ça va être aussi, par exemple, pour organiser une sortie. On peut s'en servir pour plein de choses. Mmh. Et alors, ça apprend à synthétiser.
Vous m'avez parlé également d'un autre outil, alors là, plus sur le jeu.
Oui.
Vous avez fait une rencontre au salon, c'est ça, avec quelqu'un qui travaillait sur du carton ?
Oui, tout à fait. Alors, cette année, on va avoir Peggy Création. Donc, Peggy, elle travaille sur le carton. Elle fait plein de présentoirs, d'animations, d'objets en carton, des meubles en carton.
Des meubles en carton qui sont quand même assez à la mode.
Donc, c'est vrai que je l'ai invitée. Oui, tout à fait. Et je l'ai invitée sur le salon. Et donc, elle a trouvé que l'univers de l'enfant était important pour elle aussi. Elle se retrouve dans nos valeurs, donc elle va nous créer en fait le jeu de Madame Loi, où on va travailler, donc il va y avoir une grosse soie en carton, tout va être des gros dés, et les enfants vont pouvoir jouer, et en fait on va avoir un jeu de cartes, où on va pouvoir répondre à des questions, mais par le mime et par le jeu.
D'accord, mais ça a l'air d'être assez, d'après ce que... Bah, évidemment, j'ai l'image sous les yeux, ça a l'air
joli,
d'être assez grand quand même. Hein.
Oui, ça sera... Mais on va avoir un espace un peu plus grand que d'habitude sur Cossène.
D'accord.
Parce qu'on a aménagé le salon un peu différemment. Mmh. Et donc, on est à l'entrée du salon et on aura un petit peu plus d'espace. Donc, j'en profite pour montrer...
Mais alors,
création.
Dites-moi, d'après votre petite carte de visite, qui est toute mignonne, en chocolat et en rouge, c'est pas une oie, votre mascotte ?
Non, c'est une... En fait,
mais par contre, j'ai un peu de mal à savoir ce que c'est.
C'est une feuille de ginkgo.
Une feuille de ginkgo.
C'est en fait, on reprend le logo d'Evolescence, qui est une feuille de ginkgo, l'arbre de la vie.
Oui, ok.
Et la mascotte, notre petite mascotte, en fait, son corps est la feuille de ginkgo. Et qui va nous accompagner au salon, qui sera présente en doudou, qui souhaite être présente.
Vous êtes vachement branché doudou, en fait. Hein.
Ouais, j'aime bien ça.
Ça fait au moins trois fois qu'on en parle dans l'émission. Je crois qu'on...
Mais par contre, c'est vrai que dans la pédagogie de l'enfance, en tout cas en primaire, on va avoir... le doudou, ça va être aussi pour l'enfant l'exutoire. Il va pouvoir exprimer ses émotions avec. On peut faire plein de choses avec.
Mmh.
Donc c'est vrai.
J'entends.
Que...
Vous savez qu'il y a des enfants qui n'ont pas de doudou.
Enfance.
Oui, non, mais il y a des enfants qui n'ont pas de doudou. Vous êtes au courant, quand même.
Oui, il y en a. D'accord. Mais de moins en moins, enfin, je pense que de toute façon, l'enfant est attiré. Après, après s'il n'est pas attiré par ça, il y a d'autres choses et on peut composer.
Il y a des adultes qui n'ont jamais eu de doudou dans leur enfance.
Mais il y a des adultes qui adorent les doudous aussi, encore.
Non, mais ceux qui n'ont jamais eu de doudou dans leur enfance, c'est la clientèle géniale pour les thérapeutes, ça, non ?
Je ne sais pas.
peut-être.
Est-ce qu'on a le droit d'avoir des doudous adultes quand on n'en a pas eu enfant ou quand on en a eu enfant c'est... Bon,
moi j'ai pris un chien.
Ça c'est un enfant de remplacement, ça s'appelle. Bon, alors concrètement, l'association aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, à qui?
Donc en fait, on va proposer...
Parce que c'est un début. Hein,
oui, tout à fait.
C'était pas la question du début, ça, il y a une heure ?
Si, c'était
la question. Non, mais on est parti... voilà,
donc en fait, Evolescence va proposer des cours particuliers, des cours aussi sur apprendre à apprendre, Bon, j'apprends à apprendre parce que souvent, ben, l'enfant ou l'adolescent sait pas forcément apprendre et donc il se noie dans plein de choses.
Ah oui, sur la méthodologie.
Sur les méthodologies, d'accord. Donc on a une boîte à outils.
Très bien.
On va avoir l'apprentissage de la langue.
D'accord.
Donc l'anglais et l'allemand pour l'instant, avec aussi des certifications possibles avec Cambridge.
Oui.
Donc qui donne quand même aussi ce côté. Je m'exerce parfois, quand je suis petit, à passer des diplômes, puisque Cambridge appelle ça un diplôme quand même, mais de façon ludique, on a des fagnons, si on a réussi ou pas. Donc c'est plus de se dire, c'est apprendre.
On sort du système de notes.
On sort du système de notes et on commence à apprendre aussi par rapport aux compétences.
D'accord. Alors ces cours particuliers, vous les donnez sur quelle ville dans le 82, je suppose.
Alors ça sera sur Montauban, Caussade, ouais. Et après on va se déplacer puisqu'après on prendra des salles dans les coworking et donc là on fera une communication.
Donc des cours particuliers mais qui ne sont pas à domicile. Qui seront sur des...
On va avoir du domicile, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est travailler sur le groupe.
D'accord.
Parce que l'échange, et parfois même en langue, par exemple, je pense qu'il faut arrêter de sectoriser aussi un petit peu, de dire, on est en sixième, donc on a tel niveau, on est en cinquième, on a tel niveau, on est en primaire.
Les enseignants en langue savent très bien que ce n'est pas du tout le cas.
C'est pas le cas du tout. Et donc, c'est vraiment de mixer aussi les âges, et c'est surtout de travailler sur les compétences.
Okay.
C'est vraiment, on retravaille encore en tout cas sur les compétences pour que demain ils soient prêts aussi sur ces compétences.
D'accord. Pour avoir des renseignements, par exemple, sur l'orientation, sur la formation, est-ce qu'on peut s'adresser à vous ou ce sont des projets à mettre en place encore ?
Oui, on peut s'adresser. En fait, il y a un numéro de téléphone, on peut joindre.
Allez-y, je vous en prie.
C'est le 07 68 32 61 91. Et donc, on peut nous contacter. Et voir ensemble le besoin qu'il y a exprimé, parce que ce sera vraiment aussi de l'individualisation. De
par
travailler
mail,
vraiment.
Par mail, on peut vous contacter à evol.sens@gmail.com.
Tout à fait.
Et de toute façon, vous trouvez au Salon des Énergies.
Et après, on se rencontrera au Salon des Énergies à Caussade le 9 et 10 avril.
Et je m'assurerai évidemment de mettre toutes ces coordonnées sur le podcast, sur le site de CFM et sur la page Facebook de l'association. Vous avez une page Facebook également ?
On va créer une page Facebook. Oui. Mmh.
Parce que vous avez un fils qui est particulièrement branché informatique, si je comprends
bien. Tout
à
fait, oui.
Qui s'occupe de tout ça.
Et qui va s'occuper aussi des photos du salon.
Très bien. Bon, alors je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de toutes ces nouvelles activités et cette nouvelle association.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Et puis à bientôt à Zénergie, de toute façon.
Merci, à bientôt.
Salut.
Alternative sur CFM Caylus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. I have to celebrate you, baby.